Bonjour Frédéric Huttmann, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Célia Onetto Ben Saïd. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir à diverses occasions, notamment pour évoquer Fields Glass, Leonard Bernstein, Gershwin et d'autres. Et là, on va évoquer deux grandes figures de la musique. Alors, bien sûr, Franz Liszt, et puis une figure qui rejaillit de nos jours, une merveilleuse compositrice et pianiste, Marie-Jaël. Puisque vient de paraître pour le label Nomade un disque que vous interprétez aux côtés de l'Orchestre National Avignon-Provence sous la direction de Deborah Waldman, le premier concerto de Liszt, la troisième Mephistovals de Liszt, on va expliquer pourquoi, et le premier concerto de Marie-Jaël.
Exactement.
Donc ce premier concerto de Marie-Jaël, qui est une œuvre d'une très grande virtuosité, de toute évidence, comme l'était Marie-Jaël, comment est née l'idée de l'enregistrer ?
Alors, c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai découvert Marie-Jaël avec son dernier cycle qu'elle a composé, qui sont les pièces, ce qu'on entend dans l'enfer, le purgatoire et le paradis, et
d'après la Divine Comédie.
Voilà. Et à la suite de ce projet, je me suis dit, oh là là, j'aimerais continuer de découvrir, d'explorer cette compositrice. Et j'en avais parlé à mon label, j'avais dit, j'aimerais bien la mettre en regard sous son répertoire concertant avec Liszt. Et puis voilà, bon, on en discute avec le label et puis il ne s'est rien passé à ce moment-là. C'était au mois de juin, après il y a eu l'été, etc. Et en septembre, sachant qu'il ne s'était rien passé spécialement l'été, Deborah Waldman envoie un email à mon agent pour lui proposer de m'inviter dans le premier concerto de Marie-Jaël la saison suivante. Donc là, je me suis dit, mais c'est fou, les grands esprits se sont rencontrés sans se rencontrer en vrai. Et donc évidemment, on a organisé cette série avec l'Orchestre d'Avignon et Deborah. Et puis, du coup, moi, je lui ai proposé ce projet d'enregistrement assez naturellement, du coup, en y voyant un peu un signe, quoi. Que, en plus, elle me proposait le premier concerto. Moi, j'avais imaginé le premier concerto aussi. Donc, voilà.
Alors, Marie-Jaël, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est une compositrice qui est née en 1846, qui est morte en 1925, qui était une très grande virtuose, très connue en son temps, une grande pianiste, proche de Liszt.
Exactement. C'est une compositrice qui, d'abord, a été pianiste, une pianiste brillante qui a terminé assez vite ses études au Conservatoire National de Paris. Elle est d'origine alsacienne et à cette époque où l'Alsace est en balance entre l'Allemagne et la France, et elle a une grande culture germanique, elle est bilingue allemand et elle a beaucoup d'amis en Allemagne. Elle a choisi la nationalité française, ce qui est quelque chose qui, à mon avis, lui a coûté aussi, parce qu'elle a dû renoncer aussi à certains, à certains aspects. D'ailleurs, je sais que son mari a refusé le poste de directeur du conservatoire de Leipzig pour justement montrer qu'ils étaient cocorico français. Et puis effectivement, assez jeune, elle va rencontrer celui qui vient devenir son époux. Elle est née Marie Trautmann, en réalité, Marie-Jaël. Et donc, elle rencontre Alfred Jaël, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Hein. Il a une vingtaine d'années de plus. Mais c'est vraiment un mariage d'amour. Lui, c'est déjà un pianiste très installé. Et il est très ami avec Saint-Saëns, avec Liszt, avec Brahms aussi. Et donc, par ce biais-là, elle va faire toutes ses rencontres. Et puis, ils vont aussi beaucoup se produire en quatre mains et en deux pianos, Alfred et Marie. Et puis, dans sa vingtaine, en fait, elle l'explique dans son journal, elle se rend compte que jouer, ça ne lui suffit plus. Elle a besoin de plus pour continuer d'incarner la musique, de se faire des nouveaux défis, d'aller plus loin, et elle veut écrire. Et donc, elle va se former, notamment auprès de Saint-Saëns, aussi auprès de César Franck. Et d'ailleurs, Saint-Saëns et elle vont entretenir une relation épistolaire assez passionnante à lire, très véhémente, parce que Marie-Jaël semble avoir été quelqu'un de fort caractère, c'est-à-dire qu'elle s'enflamme dans ses lettres, elle s'énerve, et cher maître, je suis très en colère, enfin vraiment, elle rue dans les brancards, c'est assez extraordinaire. Et donc voilà, elle compose de plus en plus, et comme elle est pianiste, eh bien elle a la possibilité de jouer ses compositions en concert, donc elle va beaucoup jouer ses propres œuvres, voilà, et puis bon, etc., etc. Elle devient veuve, ce qui n'était pas si surprenant puisqu'il avait 20 ans de plus qu'elle. Elle devient veuve relativement jeune, ils n'ont pas eu d'enfants en plus ensemble, et donc à partir de là, elle va beaucoup se rapprocher de Liszt, dont elle va carrément devenir la secrétaire. Voilà.
Et donc Liszt va lui dédier cette troisième Méphisto Valse que vous interprétez aussi dans ce disque.
Exactement.
C'est bien Tobin Ben Said. Alors les Méphisto Valse de Liszt, on joue toujours la première, enfin on joue quand on a les capacités de le jouer, la première qui est assez monstrueuse à jouer, pas à écouter, mais la troisième n'est jamais jouée.
Et oui, et moi-même je la connaissais pas avant, elle est très belle, c'est la plus longue des Méphisto Valse, elle dure presque 10 minutes, donc c'est quand même un sacré morceau, et elle est très exigeante aussi. Alors elle est peut-être moins grand public que la première, mais évidemment moi j'ai voulu me pencher sur cette pièce parce que Liszt l'a dédiée à Marie-Jaël, et en fait quand je me suis penchée un peu sur la jeunesse de cette œuvre, j'ai compris que Liszt n'arrivait pas à terminer cette Méphisto Valse, et que un jour Marie-Jaël était au piano, elle lui a joué, et puis elle a plus ou moins improvisé la fin et lui a dit mais ça y est, vous avez trouvé, c'est votre Méphisto Valse, et donc la fin a été faite par Marie-Jaël. Et donc, ouais, c'est une jolie histoire. Alors parallèlement, en plus, moi j'avais déjà vu des concordances de thématiques, parce que par exemple Dante, évidemment Liszt a lui aussi composé d'après une lecture de Dante, et puis il y a aussi la sonate pour piano de Marie-Jaël, qui a peut-être quelques ressemblances avec la sonate pour piano de Liszt et qu'elle dédie à Franz Liszt d'ailleurs. Donc je trouvais cette écriture en quatre mains sur la Méphisto Valse vraiment belle, assez rare d'ailleurs à ma connaissance dans le répertoire de piano, collaboration d'une pièce, c'est pas commun. Et donc je trouvais que ça faisait un joli pont entre le premier de Liszt et le premier de Jaël.
Oui, puisque vous interprétez aussi le premier concerto de Franz Liszt sur ce disque. C'est une œuvre que vous aviez déjà à votre répertoire?
Oui, alors pour être même tout à fait honnête, c'est un peu une madeleine, parce que cette œuvre, je l'ai travaillée pour la première fois à 15 ans avec Brigitte Ungerer. Donc c'est un des premiers concertos que j'ai travaillé, et c'est comme ça que j'ai rencontré Brigitte, qui d'ailleurs m'avait dit à l'époque « c'est beaucoup trop dur pour toi !» mais donc c'est un concerto que j'aime beaucoup et que je connais depuis longtemps. Alors après, évidemment, je l'ai retravaillé à l'aune de mon expérience de maintenant, mais ce que j'adore dans ce concerto, c'est cet aspect un petit peu fantasque où tout s'enchaîne quasiment. Le deuxième est un peu sur le même modèle, il s'affranchit des formes, et puis l'orchestre ruisselle par pupitres séparés, avec des solos assez sublimes quand même par-ci et par-là dans l'orchestre. Donc il est, par rapport au concerto de Marie-Jaël, qui est vraiment, je dirais, très germanique, il est vraiment très insaisissable, celui de Liszt. Le piano s'envole et très vocal, très recitativo, là où Jaël, c'est presque plutôt brahmsien, la manière qu'elle a d'orchestrer aussi, et de distinguer le dialogue piano-orchestre par bloc, là où chez Liszt, tout ça se câline un petit peu tout le temps. Voilà.
Enfin, juste une parenthèse, Célia, puisque vous évoquez Brigitte Ungerer, que vous avez connue, puisque c'était une figure du piano, mais non seulement une grande figure pianistique, mais sa mort a créé vraiment une douleur, un sentiment de vide. Il y a comme ça des artistes dont la disparition affecte même les gens. Moi, je l'ai juste rencontré une fois. Enfin, même les gens qui ne les ont pas connus, c'est des figures assez familières, et puis dont la disparition entraîne quelque chose de particulièrement émouvant. Vous l'avez longtemps côtoyée, Brigitte Ungerer, ou...
Je l'ai côtoyée dans les dernières années de sa vie, puisqu'elle est décédée en 2012. Et donc moi, j'ai pris des cours particuliers avec elle peut-être dans les 5 ou 6 dernières années de sa vie. En fait, je suis rentrée au conservatoire l'année où elle est décédée. J'aurais dû rentrer dans sa classe. Donc elle est décédée au mois de juin, la rentrée se fait en septembre, donc j'ai jamais été officiellement son élève, mais je garde un souvenir d'elle très fort, parce que c'était une pianiste qui s'autorisait beaucoup dans son approche de la musique, d'humanité, et d'utiliser ce qu'on traverse dans nos vies privées. Et elle me l'a vraiment transmis, et j'en suis hyper reconnaissante, parce que ça rend très fort au quotidien quand on vit, comme on vit tous, parfois des choses plus ou moins cool qui nous arrivent, et bien de le réinvestir, de le réinjecter dans notre musique de manière très passionnée, très entière, quoi. Brigitte, c'est pas quelqu'un qui nous transmet de jouer un jeu lisse et propre, c'est même le contraire, et j'aime le fait de cultiver ses aspérités, ses singularités. C'est quelqu'un qui m'a invitée, juste aussi en étant ce qu'elle était, en figure de modèle, qui m'a invité à être ça. C'était une femme forte quand même, des exemples de pianistes féminines, on en a, parce qu'il y a eu des stars de tout temps. Il y a eu Clara Askill, il y a eu évidemment Clara Schumann, si on monte plus loin, il y a eu Marguerite Long. Mais finalement, à chaque génération, pour Martha Argerich aujourd'hui, mais pour une femme pianiste, il y a 10 modèles d'hommes. Et donc en France, Brigitte Angerer, elle faisait partie des 2-3 auxquelles on pensait tout de suite de vraiment femme puissante, femme forte, avec un caractère qui, en plus, voilà, c'est affranchi de codes. Enfin voilà, moi, je trouve ça hyper inspirant, les artistes qui osent être libres. Voilà.
Alors Célia, on va revenir à ce disque paru pour Nomade Music. Vous interprétez notamment ce premier concerto en ré mineur de Marie Jaël. Alors, on parle des figures féminines de la composition. Donc vous avez participé récemment à des enregistrements de Rita Straul, et puis Jeanne Leleu, et Charlotte Sauri, et puis j'en oublie encore, et puis bien d'autres. Donc c'est actuellement un retour. Ce qui est d'assez étonnant, c'est que, enfin, pour ma génération, excusez-moi de parler comme un vieux, mais bon, malheureusement je le suis, ce qui est étonnant, c'est que toutes ces compositrices qui étaient tombées dans l'oubli, on pourrait penser qu'en leur temps elles étaient aussi peu connues, mais en fait, si on parle de Marie Jaël, c'était une femme qui était très connue, une grande pianiste, proche de Liszt, de Saint-Saëns et d'autres. Elle faisait partie de sociétés de compositeurs, et donc elles avaient été reconnues en leur temps.
Bah oui.
C'est pas des femmes dont on peut penser, comme Fanny Mendelssohn ou d'autres, qu'elles ont vécu effacées derrière un frère ou un mari et qui les ont empêchées de s'exprimer. Elles se sont exprimées en leur temps.
Oui, et puis bah, l'exemple est parfait avec les concertos. Une compositrice ou un compositeur, hein, c'est la même chose, à qui des chefs d'orchestre vont confier leur orchestre, en fait, ça coûte de l'argent. Enfin, donc les compositeurs dont on crée des œuvres avec orchestre, que ce soit des symphonies, des concertos, eh bien, ce sont des compositeurs ou des compositrices à qui, enfin, qui font vendre, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, Marie-Jaël, il y a 2 concertos pour piano, il y a un concerto pour violoncelle, il y a de nombreuses mélodies avec orchestre. Enfin, il y a un vrai catalogue avec orchestre. Donc, ça prouve à quel point c'était quelqu'un dont on parlait, qui était prestigieuse, reconnue. Et puis, voilà, elle n'a pas eu d'enfant. Alors, ça peut peut-être aussi être une des causes.
Brahms non plus, il n'a pas eu d'enfant ni Ravel. Ça ne les a pas empêchés d'une certaine postérité.
Ah oui, c'est injuste. C'est injuste. Mais Marie-Jaël, en plus, contrairement à beaucoup de compositrices, ses partitions, pour la plupart, ont été éditées. Et aujourd'hui, elles ne sont plus dans le commerce. Donc, elles ont été éditées beaucoup chez Hegel. Et en fait, là, le fonds Marie-Jaël est à la bibliothèque de Strasbourg, puisqu'elle était alsacienne. Et en fait, on doit beaucoup sa redécouverte à une bibliothécaire qui a travaillé là-bas, qui s'appelle Marie-Laure Ingelaer, qui est maintenant à la retraite, mais qui a aussi créé l'association Marie-Jaël, qui a tout trié, en fait, tout le carton Marie-Jaël. Et en fait, tant que ce n'est pas trié, les archives, ce n'est pas répertorié. Mais en fait, maintenant, par exemple, je lance un appel, hein, Marie-Jaël est dans le domaine public, c'est-à-dire que ça ne coûte rien à un éditeur de la remettre en vente. Qu'est-ce qu'ils attendent ?
Elle est morte en 1925. Il y a des enregistrements d'elle où on ne sait pas, où on n'en trouve pas.
J'en ai pas trouvé, en tout cas, pas à ma connaissance.
Parce que c'était une grande pianiste.
Après, elle a vraiment, les 20 dernières années de sa vie, elle n'a plus vraiment joué. Elle a beaucoup enseigné. Elle faisait ses recherches sur le toucher. Et sur, elle a fait des recherches sur les capacités kinesthésiques de la main en partenariat avec des médecins de la Salpêtrière. Et donc, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup moins produite sur la scène. Elle s'est beaucoup moins mise à composer aussi. Et donc, peut-être aussi qu'elle-même est responsable de sa chute dans l'oubli à ce moment-là, puisqu'elle a elle-même un peu lâché l'affaire, si j'ose dire.
Alors, c'était une grande pianiste, on l'a dit. Ce concerto, il a l'air très difficile, même si parfois je peux me tromper. On en parlait hors micro, qui ont l'air très difficiles, dont vous me dites qu'elles ne sont pas tant que ça.
Non, c'est en virtuosité, une série de galipettes, si j'ose dire, sans discontinuer, du début à la fin. Il est d'une exigence technique vraiment très grande, notamment sur l'aspect des octaves, mais pas que. Et puis, il y a l'aspect de tenir la longueur de l'œuvre. Il y a l'aspect aussi de la puissance par rapport à l'effectif orchestral. Il faut ce qu'on appelle passer la rampe pour qu'on soit entendu au-dessus de l'orchestre quand on a le thème. Et puis, comme souvent chez elle, pour le coup, je ne suis pas surprise, il y a beaucoup de chromatismes. Et pour la mémorisation, les chromatismes, c'est toujours dangereux. On peut se casser la figure dans des chromatismes au niveau de la mémoire. Donc, vraiment
nous,
exigeant.
Moi, j'ai pas eu la chance de l'écouter au concert, je l'ai écouté uniquement au disque. Parfois, les ingénieurs du son sont très habiles pour rééquilibrer. Est-ce qu'il y a un très bon équilibre avec l'orchestre?
Ah bah ça, c'est toujours au chef ou à la chef d'être vigilant à ça. Et puis ça dépend des salles. Je l'ai joué à la fois à l'Opéra d'Avignon, je l'ai joué à Gap, je l'ai aussi joué à la Roque d'Anthéron, ce concerto. Donc, dans chaque contexte, il faut qu'on se réadapte avec les pianos, etc. Mais c'est complètement écrit pour que ça puisse marcher. Il n'y a rien qui est pas lucide dans l'écriture de Marie-Jaël, mais c'est l'enjeu de tous les concertos, l'équilibre, surtout quand l'orchestre est bien étoffé comme c'est le cas ici.
Alors donc, il y a ce concerto, donc on connaît tout votre travail à propos des compositrices, et puis vous faites ressurgir, alors on pourrait se dire, ah bah c'est intéressant intellectuellement, mais il faut dire quand même que c'est souvent de la magnifique musique. Enfin, vous m'avez fait avec d'autres découvrir Jeanne Leleu, par exemple, compositrice dont j'ignorais le nom. Après, j'ai vu qu'elle avait créé Ma Merloie de Ravel, ce chef-d'œuvre pour piano quatre mains. Mais Jeanne Leleu, son nom, il y a encore trois mois, m'était totalement inconnu. C'est une musique extraordinaire.
Bon, bah,
Charlotte Sohi, c'était un peu. Ou Cécile Chaminade, sont des noms qui nous sont devenus un peu plus familiers, comme Rita Stroll, mais enfin, c'est pas non plus Brahms ou Schubert au niveau de la notoriété.
Bah, dans toutes ces démarches de revalorisation du répertoire de compositrices, il faut être très vigilant à pas tomber dans de la caricature, c'est-à-dire on joue des compositrices parce que ce sont des compositrices. Il faut toujours rester très exigeant, je dirais même doublement vigilant à ça, parce que les détracteurs n'attendent que ça, finalement,
oui,
qu'on parle d'une compositrice et qu'en fait ce soit mauvais. Là, ça va donner de l'eau au moulin des gens qui ont une pensée différente de la mienne, et ça, c'est pas mon but du tout. Donc non, le critère numéro un, c'est la qualité de la musique, toujours.
Mais ça a l'air, alors étrangement, mais peut-être que je m'égare, à chaque fois, c'est des œuvres qui ont l'air quand même redoutablement difficiles. Alors, c'est vrai que vous jouez des œuvres difficiles, mais si un répertoire, par exemple, de Marie-Jaël pour des pianistes amateurs, où elle a composé que des œuvres très difficiles.
Il y a un répertoire beaucoup plus facile aussi de Marie-Jaël, bien sûr. Là, actuellement, je prépare un concert sur la thématique de l'eau avec que des compositrices françaises. Et notamment, je joue « Les jours pluvieux », qui est un cycle de Marie-Jaël, qui peut être à destination pédagogique ou aussi, c'est de la belle musique, donc aussi donnée en récital. C'est un peu du même genre que imaginer les scènes d'enfants. C'est-à-dire qu'un amateur peut jouer les scènes d'enfants de Schumann, et pour autant, un pianiste professionnel a vraiment de la matière pour se prendre la tête sur le son, etc. Mais Marie-Jaël, c'est vraiment un super bon exemple pour ça. Il y a un catalogue qui s'adresse à tous les niveaux. Vraiment, pour le piano, c'est très riche.
Alors, vous jouez donc sur le même disque le premier concerto de Liszt, qui est l'un des grands concertos fameux du répertoire.
Avec beaucoup d'octaves aussi.
Et quand vous étiez petite, Célia Netto-Bensaïd, c'est une œuvre que vous écoutiez par des grands pianistes. Vous parliez de Martin Argerich et son enregistrement célèbre avec Claudio Abbado, qui est un des enregistrements qu'il a révélé au grand public.
Des tempi hallucinants. Elle prend tout très très vite, Martin Argerich, c'est incroyable. Effectivement, j'ai beaucoup écouté ce concerto dans la version d'Argerich Abbado petite. Là, maintenant, j'essaye, surtout au moment où je l'ai enregistré, j'ai essayé de plus trop écouter. Brigitte Ungerer m'avait aussi donné, elle l'avait enregistré en direct à la Folle Journée. Donc, j'avais aussi la version de Brigitte en direct de Nantes. Mais j'ai essayé de plus trop écouter parce que il y a trop de. Déjà, il y a beaucoup de différences entre les versions et je voulais vraiment être sûre de proposer quelque chose qui soit personnel, qui me ressemble, qui soit très honnête vis-à-vis de ce que moi j'étais il y a un an, parce que ça fait un an maintenant qu'on l'a enregistré. Donc, il y a un temps pour tout et j'ai arrêté d'écouter des versions. Donc là, tout de suite, je ne me suis pas remise à écouter d'autres. Ça va me faire complexer probablement. Donc,
nous, en tout cas, on n'en tire autant un complexe en ce qui vous concerne, Célia, croyez bien. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous jouez, hormis la Mephisto Valse numéro 3, à la fois un chef-d'œuvre ultra connu et un chef-d'œuvre méconnu, tombé dans l'oubli. Donc, à chaque fois, vous êtes confronté à deux choses différentes. C'est-à-dire, vous interprétez ce premier concerto de Marie-Jaël que personne, enfin, sauf quelques esthètes, personne quasiment ne connaît. Vous avez est-ce que vous sentez une responsabilité de dire c'est un chef-d'œuvre et il faut justement que les gens comprennent que c'est un chef-d'œuvre, ce qui est quand même l'inverse de jouer le premier concerto de Liszt, ouais, où vous disant tout le monde sait que c'est un chef-d'œuvre, donc c'est à moi d'apporter ma part sans...
En fait, ce que je voulais dans ce projet, c'était pas ghettoiser Marie-Jaëlle. C'était pour moi... assez logique de la coupler. Pour moi, son œuvre est à la hauteur, est très différente, son premier concerto est très différent de celui de Liszt. Pour moi, justement, leurs qualités étant différentes, ça tient la comparaison. Comme ça fonctionne aussi par rapport au répertoire que Marie-Jaëlle avait dans les mains, je peux complètement imaginer qu'il a pu exister un concert où Marie-Jaëlle, elle a joué son propre concerto, le premier de Liszt, et puis la Mephisto de Liszt qui lui a été dédiée en bis. Donc, c'était aussi un petit peu ce modèle-là. Et puis, voilà, on parlait de cette démarche de revaloriser les compositrices. Ça passe aussi, je pense, surtout de la part d'interprètes comme moi, très engagés, au fait de les mixer, en fait. J'ai pas envie d'imaginer qu'il y ait que des concerts dédiés aux compositrices, que des disques dédiés aux compositrices, parce que dans ce cas, bah, on va faire des concerts de compositeurs et des concerts de compositrices, alors que pour moi, c'est de la musique, donc ça doit se répondre, ça peut rentrer en résonance, chaque mise en miroir peut apporter un éclairage différent, donc... Et puis le concerto de Marie-Jaëlle, il est en ré mineur, très dramatique. Celui de Liszt finit de manière beaucoup plus lumineuse. Donc il y a quelque chose aussi de complémentaire entre du sombre et de la lumière, un truc d'étincelle qui marche entre ces deux personnalités, quoi.
D'ailleurs, vous parlez de mixité. Alors, j'ai apporté un disque que j'adore, auquel vous avez participé avec Marie-Laure Garnier, votre complice de longue date. Et le Quatuor Hanson, un disque absolument merveilleux. Il y a la bonne chanson de Fauré, la chanson perpétuelle de Chausson. Le poème de l'amour et de la mer, c'est autre chef-d'œuvre de Chausson, transcrit pour voix, cordes et piano par Franck Villard. Et puis, trois chants nostalgiques de Charlotte Sohi. Oui. Donc ça aussi, c'est une manière aussi...
Oui, ça, c'était un salon français, un petit peu. Alors, surtout que Charlotte Sohi avait notamment un lien clairement établi avec Gabriel Fauré, puisque... il la prenait sur ses genoux quand elle était petite, il était reçu dans le salon de ses parents. Charlotte Sohi, je ne sais plus à quel âge, mais assez jeune, je crois, à 9-10 ans, elle était toute excitée d'aller découvrir le Requiem de Fauré. Il y a quand même peu d'enfants, enfin, quand on pense aujourd'hui, qui se disent « Wow, trop bien, je vais l'écouter !» Donc voilà, il y a aussi... voilà, c'était un petit peu un salon français de la fin du 19e siècle, début 20e. Avec ces trois figures, et puis surtout, le point commun, c'était la formation quintette avec piano et voix. Alors, grâce à la transcription de Franck Villard, le poème de l'amour et de la mer, et je trouve que c'est intéressant, cette transcription, où c'est quand même vraiment plus riche qu'au piano, et on n'est pas encore dans les masses orchestrales de la version avec orchestre, et donc du coup, on peut aller chercher beaucoup plus de couleurs et d'inflexions de voix peut-être plus intimes. Donc voilà, et puis la bonne chanson, c'est Fauré lui-même qui a fait une transcription, qu'il d'ailleurs n'aimait pas trop, hein, mais il avait quand même fait lui-même pour un concert à Londres. Et donc, donc là, c'est vraiment de sa main à lui. Et Charlotte Sohi, les chants nostalgiques, c'est ainsi qu'elle a écrit dans les trois versions. Il y a la version avec orchestre, il y a la version avec quintette avec piano, et il y a la version piano-voix. Donc c'est un répertoire assez difficile à trouver, le répertoire de quintette avec piano et voix. Donc là... Ça matchait à tous les niveaux, donc on était trop contents tous les six de les mélanger, quoi.
Bon, c'est vraiment un très beau disque. Alors on parlait justement, vous parliez des liens amicaux de Charlotte Sohi avec Gabriel Fauré, et justement les liens amicaux de Marie-Jaëlle avec Liszt ou avec d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que justement ces génies de compositeurs, ils avaient de l'estime aussi, et de l'admiration pour ces femmes.
Bien sûr, ils n'avaient pas l'air d'être misogynes pour beaucoup d'entre eux. C'est ça que ça nous prouve. Liszt qui disait de Marie-Jaëlle « Un nom d'homme et vos partitions seraient sur tous les pupitres ». Il y a Brahms aussi qui dit quelque chose de très drôle sur Marie-Jaëlle. Alors, j'ai plus la tournure en tête exacte, mais en gros, il existe une pianiste qui se fabrique des choses pour le piano aussi difficiles que celles de Liszt. Elle a beaucoup de talent, elle s'appelle Marie-Jaëlle. Enfin, ils sont plutôt très curieux, très ouverts d'esprit, et soyons-le nous aussi, en fait.
Alors Marie-Jaëlle, c'est incroyable parce que c'est elle qui a été la première, non, pas première femme, premier pianiste à donner l'intégrale des sonates de Beethoven en France.
Oui.
Donc c'est aussi montrer une curiosité parce que Beethoven, à l'époque, on ne jouait pas toutes ses sonates. Enfin...
Oui, puis je pense qu'en plus, en France, à la fin du 19e siècle, la musique allemande devient de moins en moins bien vue. Hein. Donc il y a un aspect de quête de paix, en fait, parce que c'est encore une fois sa racine alsacienne qui s'exprime, parce qu'elle a vraiment des amitiés avec les Allemands. Et elle doit sentir le vent qui va tourner, Marie-Jaëlle, en fait, derrière tout ça. Et donc, c'est vrai que faire l'intégrale des sonates de Beethoven en 6 concerts à la salle Pleyel, qui ont fait vraiment beaucoup parler d'eux dans la presse de l'époque, c'était gonflé, en fait, à tous les niveaux, au niveau artistique, pianistique, mais au niveau presque politique, je pense. Et puis, elle a fait la même chose avec l'intégrale des œuvres de Liszt. Et puis, dans une même journée, j'ai trouvé un concert où elle jouait les 4 premiers concertos de Saint-Saëns dans la même journée. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment une... Je pense que ça devait être vraiment une virtuose comme Yuja Wang aujourd'hui, comme Martha Argerich. Enfin, c'est rare les personnes qui ont tant de moyens techniques. Quoi.
Clara Schumann, elle n'avait pas des moyens techniques aussi importants ou...
Certainement. J'ai moins creusé le sujet Clara Schumann là avant qu'on se rencontre, mais il y a un répertoire associé à vraiment de la grande virtuosité chez Marie-Jaëlle que je remarque particulièrement. Évidemment, la musique de Clara Schumann et de Robert Schumann est très difficile, très exigeante, mais il n'y a pas une virtuosité de brillance comme il y a quasiment systématiquement chez Saint-Saëns ou chez Liszt, par exemple. Donc, il y a quand même vraiment un côté piano facile qui est une sorte de danse des lutins, dans un type de pianisme quoi, qui est très spécifique, je trouve, à la fois à un compositeur comme Saint-Saëns et Liszt, en fait. Ils sont assez communs là-dessus.
Célia, avec vous, j'ai eu le plaisir d'évoquer plein de répertoires différents. Finalement, le répertoire que j'évoque le moins, c'est Beethoven, Schubert, Schumann, tous ces grands noms, Brahms. Et là, vous m'avez dit, hors micro, travailler le 4e concerto de Beethoven, donc qui est aussi un immense chef-d'œuvre. Comment ça se passe quand vous retournez vers ce répertoire qui est quand même le cœur du répertoire que vous avez étudié?
Oui.
Parce que les compositrices, vous les avez abordées à partir de, je sais pas, l'âge de 20
Oui, 25 ans, ouais. Bah, moi, au concert, je joue tout le monde. Après, au disque, c'est autre chose parce que...
Vous voulez faire un apport, apporter quelque chose.
Voilà, j'ai l'impression que c'est difficile, mais peut-être que je dis ça et que dans 20 ans, je ferai une intégrale Beethoven et je m'écouterai en me disant bah, « j'étais bien bécasse à l'époque ». Mais je trouve ça difficile pour moi de me projeter dans des projets, dans ce répertoire où il y a tant... d'immenses pianistes qui sont passés avant moi au disque. Donc, évidemment, au concert, je ne suis pas raciste. Je joue de tout, de tout le monde, et avec grand plaisir. Donc, évidemment, je me nourris quand je joue Rita Stroll, je me nourris de Schumann, je me nourris de Saint-Saëns, je me nourris de Beethoven, de Debussy, de Ravel pour son cycle pour piano seul, des musiques sur l'eau. Enfin, évidemment, je joue tous ces compositeurs et là, par exemple, effectivement, je travaille le 4e de Beethoven que je joue dans 10 jours et c'est un régal. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, le chemin d'un artiste se fait sur plein de projets. Et ce qui est génial avec le piano, c'est tous les répertoires qu'on peut aborder. En plus, entre le solo, la musique de chambre, la musique vocale, les concertos, enfin vraiment, c'est passionnant.
Bah, en même temps, moi, pour avoir discuté avec des gens qui jouent avec vous, Eloïse Luzzatti, Léa Nino, d'autres, ils disent ce qu'il y a de génial avec vous, c'est qu'on vous lance sur un projet. Vous êtes toujours excité à l'idée d'apprendre une partition, même monstrueuse. Il y a comme ça un côté...
Effectivement,
vous adorez assimiler aussi des nouvelles partitions.
Je fais partie des pianistes qui aiment monter du répertoire. J'aime découvrir, donc, effectivement, ça, mon parcours ressemble à qui je suis. Je suis très curieuse et je suis très enthousiaste et je suis gourmande, que ce soit en musique ou en cuisine. Donc, effectivement, ça rejaillit dans le répertoire que je joue. Et puis voilà, c'est des rencontres. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres musiciens avec qui on joue. Et puis, encore une fois, les répertoires viennent s'enrichir. Moi, franchement, je progresse quand je travaille du Marie-Jaëlle et que, du coup, je joue concerto de Liszt et que, en fait, je sens qu'elle l'avait dans les doigts. Enfin, évidemment, tout ça se nourrit. C'est poreux. Il n'y a rien qui est compartimenté dans ma manière d'aborder tout ça.
Oui, mais par exemple, quand vous jouez le premier concerto de Liszt, je ne parle même pas des enregistrements passés. Enfin, c'est une musique avec laquelle on a une familiarité. Liszt,
Oui.
c'est un compositeur qui accompagne les pianistes et les amoureux de musique depuis toujours. Mais Marie-Jaël, quand vous vous retrouvez face à une partition de Marie-Jaël que personne n'a jouée sinon depuis 100 ans, quelle est votre attitude quand vous êtes face à une telle partition et...
Je suis patiente, en fait, parce que en plus, pour vous donner un exemple, quand on travaille un concerto au piano, on a l'orchestre, on a la partition, ce qu'on appelle le conducteur, où il y a l'orchestre et le piano sur la même partition. Mais le problème pour travailler sur ces supports, c'est qu'on doit se tourner les pages toutes les 3 mesures. Donc souvent, on travaille sur un autre support qui est le piano avec une réduction de l'orchestre sur une partition de deuxième piano. Comme ça, quand on travaille, on a tout de suite la vision de ce qui se passe dessous, si j'ose dire, tout en pouvant travailler au moins 20 mesures à la suite. Et le concerto de Marie-Jaël, par exemple, il n'y avait pas ce matériel-là. Donc j'ai dû travailler sur une partition de piano solo avec tout d'un coup 36 mesures à attendre. Et même dans les moments où je joue, je ne savais pas ce qui se passait dessous. Il fallait que je consulte le conducteur d'orchestre qui est très grand, etc. Donc il y a des difficultés pour ça. Après, voilà, c'est une question de patience, en fait. C'est comme. Et en même temps, c'est enthousiasmant. Enfin, j'ai été, par exemple, j'ai vécu l'année dernière une situation assez rare où j'ai dû remplacer une pianiste dans le concerto de Vítězslava Kapralová, qui est une compositrice tchèque début 20e, qui est décédée à l'âge de 25 ans, une élève de Nadia Boulanger. Et j'ai eu 8 jours pour monter son concerto. Bah, je l'ai fait et c'était trop bien en vrai. Donc, bon, en fait, je pense vraiment qu'avec la volonté, l'enthousiasme et l'envie.
Oui, les capacités aussi, ça vous le dites pas, mais je le dis quand même pour vous.
Non, mais et puis non, mais plus on se retrouve à monter, plus on est bon. C'est vrai, ça progresse. C'est-à-dire que plus on déchiffre, mieux on déchiffre. Plus on joue, mieux on joue. Donc, effectivement, ça m'a fait progresser. Ça continue de me faire progresser parce que ça pousse à se remettre en question, en fait, quand on monte du nouveau répertoire. Sinon, on peut ronronner un peu et. Moi, perso, je risque de m'ennuyer. J'ai besoin, au moins quand je reviens à des œuvres que je joue beaucoup, au moins que d'en découvrir d'autres entre-temps pour que je perçoive les œuvres que j'ai beaucoup jouées avec un regard neuf. Voilà.
Non, puis ça doit être quand même une impression assez fascinante, passionnante de se dire, grâce à moi, il y a des gens qui vont sortir de la salle de concert ou
Mais oui!
de l'écoute de disque en disant, il y a 1 heure, ils ne connaissaient pas Jeanne Leleu, c'est un
Ben
nom
oui!
très mystérieux. Et puis ça va devenir des fanatiques de Jeanne Leleu qui vont afficher son poster
Bah, c'est
dans leur salon.
extrêmement gratifiant, quoi. C'est extrêmement gratifiant et surtout que, encore une fois, on joue pas n'importe qui quand on joue des compositrices et qu'on veut les défendre intelligemment. Donc on joue des figures qui sont inspirantes et dont la musique est belle et excitante, tant à jouer qu'à entendre. Donc voilà.
Et ben voilà, tous ces qualificatifs qui vont tellement bien à ce disque qui vient de paraître pour le label Nomade Musique, Célia Netto Bensaïd. Je rappelle que vous êtes aux côtés de l'Orchestre National Avignon-Provence, placé sous la direction de Déborah Valman. Juste un mot de Déborah Valman, parce que c'est une chef avec laquelle vous avez déjà pas mal travaillé.
Ouais. Ben, une chef très engagée aussi dans le fait de ne pas ronronner le répertoire, si j'ose dire, de découvrir des œuvres, de diriger des nouvelles œuvres, et donc très curieuse sur la musique des compositrices du passé notamment. Donc évidemment, c'est un endroit où on s'est vraiment rencontrés. Après, sur l'aspect musical, ce qui a été formidable pour moi, c'est que Déborah a une attitude pas du tout d'autorité directive, mais vraiment de collaboration avec moi. On a pu discuter de tous nos choix artistiques. Elle a été super à l'écoute. Et en plus, c'est des concertos où c'est pas facile de choper le pianiste, si j'ose dire, tellement il y a de notes au piano. Donc d'une attention et d'une bienveillance à mon égard formidable. Et donc, je trouve qu'elle a réussi à fédérer l'orchestre autour de ce projet où tout le monde a vraiment donné le meilleur de lui-même. Donc, non, c'est quelqu'un, je suis très reconnaissante d'avoir rencontré Déborah sur mon chemin artistique et humain, parce que c'est quelqu'un d'humainement très généreux.
Eh ben, on est reconnaissant à toutes les deux et à l'orchestre de ce disque absolument merveilleux. Célia Netto Bensaïd, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci Frédéric et bonne fin de journée.
Merci.